Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, nous allons méditer un texte dans l'Évangile de Luc. Je vais vous donner les références. Et ce passage, vous l'avez lu, oh, allez, je me lance, des dizaines et des dizaines de fois. Alors peut-être penserez-vous qu'Alain est en panne, que je ne sais plus quoi dire. Attendez-vous à avoir une surprise. Vous savez, elle est inépuisable, la parole de Dieu, hein, n'est-ce pas ? Alors je vais vous dire simplement la référence et vous pourriez peut-être citer ce passage, même s'il est un petit peu long, de mémoire, simplement. Luc, chapitre 15, qu'est-ce que c'est ? Sans regarder dans votre Bible. Il parle de quoi ? Pardon ? J'ai rien entendu, hein ? Vous êtes vraiment très timide ce matin. Alors ? C'est ça aussi, oui, mais il y a encore un autre texte, il y en a quatre paraboles. Eh bien voilà, nous avons affaire à quelqu'un d'expérimenté dans la personne de Jeannette. Mais oui, c'est pas la première fois que vous lisez ce texte. Voilà. Alors, c'est le fils prodigue. Alors, ça concerne tout le monde, hein. Le monde entier même, parce que ça a été inspiré pour que le monde entier puisse véritablement se tourner vers Dieu. Les commentateurs de la Bible lui ont donné un nom à cette parabole. C'est véritablement, eh bien, la perle des paraboles, parmi d'autres, hein. Évidemment, parmi d'autres. Alors, nous avons donc ce texte que je vais lire partiellement et nous allons donc nous fixer sur ces quelques mots qui nous sont laissés et qui vont bien au-delà de ce que le texte nous dit d'ailleurs, hein, dans son application. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors, on va commencer par cette partie et puis on conclura avec les versets, les quelques versets qui suivent. Voilà un garçon qui s'en va. Ouais, il s'en va. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il était dans un endroit et il veut aller dans un autre. Il s'en va, figurez-vous, parce qu'il est fatigué. Ah, on les connaît tous, les fatigues. On peut tous être fatigués d'une façon ou d'une autre, physiquement, moralement, économiquement, affectivement. Alors, il s'en va, fatigué, et figurez-vous, que la suite est pleine de révélations, fatigué d'être heureux. Heureux là où il est, heureux chez lui, heureux dans sa maison, la maison de son père. Et dans ces conditions, eh bien, il n'en peut plus, il est prêt à exploser. C'est un jeune homme, deuxième de la famille. Il est complètement, eh bien, là, désabusé parce qu'il se dit, si c'est mon horizon, dans la maison de mon père, où pourtant il y a des possibilités, mais lui, il ne les voit pas parce qu'il est fatigué. Et il est certainement à broncher, à maugréer. Il regarde ceci, il regarde cela, ce qui peut être finalement, eh bien, très intéressant pour les autres. Mais alors lui, ça ne lui dit plus rien. Certainement depuis que sa tendre enfance, eh bien, il est au bout, tout simplement. Vous savez, ça, c'est un petit peu notre société aujourd'hui. Hein? Notre société où nous avons des conditions. Ah, c'est pas parfait, ça c'est vrai. Rien n'est parfait. Mais néanmoins, au regard de ce qui se passe ailleurs, et c'est peut-être justement les gens qui voyagent pas, qui se plaignent le plus, et qui se disent, eh bien voilà, bon, il y a ceci, il y a cela, etc., qui font la moue, et puis on peut bien leur présenter n'importe quoi, ils auraient 10 fois plus, ils seraient toujours mécontents. Alors c'est l'histoire de ce garçon, fatigué d'être heureux. Mais il y a quelque chose quand même qui le fait vivre. Parce que ce n'est pas le désespoir, la désespérance totale. Non. Il rêve. Ah, les rêves. Toutes les publicités aujourd'hui sur les médias, c'est pour faire rêver les gens. Voilà. Les voitures, la maison, et certainement les voyages. Enfin bon, on a des possibilités. Hein, puis même si on n'a pas trop d'argent, on peut toujours faire un crédit. Hein. C'est la possibilité que nous avons. Il rêve d'une grande aventure de vie, figurez-vous. Ah, peut-être qu'il a appris que certains ont fait ceci, ont fait cela. Ont réalisé des prouesses, des exploits. Il se dit, mais ma vie, c'est pas autre chose que ça. Une grande aventure, et cette grande aventure, ça fait marcher le monde depuis toujours, c'est la liberté. J'y ajouterai un autre mot, c'est l'indépendance. C'est formidable, hein? Eh oui. Il voit peut-être des gens qui ont gagné leur liberté, qui sont indépendants, d'abord de leur propre vie, et puis ils se sont affranchis de beaucoup de choses. Ça peut être même des questions morales. Je fais ce que je veux comme j'ai envie de le faire. Voilà. Et je suis libre. Maintenant, savoir s'ils sont heureux, c'est encore autre chose. La liberté, enfin, ne plus être prisonnier d'une tradition, qu'elle soit familiale, d'une autorité, qu'elle soit gouvernementale ou patronale, ou tout ce que vous voudrez y mettre, hein, quoi qu'il en soit. Ne plus être, eh bien là, en prison. Il y a beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui qui sont en prison et qui sont en prison réellement. Et puis, il y en a d'autres qui prétendent être libres, mais ils ne voient pas les barreaux qui les retiennent, hein, de ceci et de cela. Alors il va voir son père un beau matin, ou un soir, peu importe, et il va en effet eh bien, mettre en place son rêve d'aventure. Et il va naturellement discuter de l'équipement de son voyage, et puis des provisions, et peut-être d'une manière abrupte, sans véritablement s'inquiéter de ce que son père peut penser. Il va lui dire « Donne-moi la part qui me revient !» Voilà. Lui, il anticipait déjà l'héritage. Son père était peut-être encore très jeune. Mais vous savez, aujourd'hui, on le voit. Hein, il y a des enfants qui, par rapport à leurs parents, la fortune peut-être familiale, n'attendent pas que leurs parents soient morts. Hein, ils commencent déjà à gamberger comment ils pourraient finalement avoir un petit peu plus. Voilà. Mais il y a un ordre à tout cela, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Donne-moi la part qui me revient. Et il considère son père, figurez-vous, comme un banquier. Ouais. C'est une agence de crédit. Hein, parce qu'il n'a pas. Hein. Il a ce qu'il faut. Il a plus que ce qu'il faut. Mais L'essentiel, c'est quand même son père qui le détient. Alors il le considère comme un marchand de biens, en quelque sorte. Voilà, un banquier. Et le père a une attitude que nous retrouvons plus tard dans notre méditation. Il a une attitude extraordinaire. Il fait confiance à son fils, tout simplement impatient. Eh oui, parce qu'il aurait pu réagir en disant, bon, tu es à la maison, voilà, tu attends, hein, tu n'es pas majeur, voilà, tu n'es pas en capacité de gérer ta vie, moi je te prépare un avenir, etc. Non, il lui dit rien. Enfin, apparemment, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. Et il fait foi à son fils, parce que la demande du fils, elle n'est pas raisonnable, hein. Mais il va lui faire ce qu'il demande. Et à ce moment-là, le père va lui dire d'accord. D'accord. On ne dit pas toujours d'accord à nos enfants, surtout quand ils sont petits, parce que ça peut être dangereux. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les relations parentales avec des jeunes adultes ou avec des adolescents, on ne peut pas tout leur donner. Hein. Ça, il y a des choses où... Surtout que, bon, quand on connaît... l'immaturité de notre société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça va mal. Mais ça va mal, il y a une bonne raison. C'est que il y a des choses qui ont été déplacées, il y a des désordres, il y a toutes sortes de choses. Mais on ne veut pas contrarier, on ne veut pas déplaire. Et c'est à tous les niveaux tout ça, hein, pour avoir la paix. Chacun a envie de faire ce qu'il a envie. Et pour avoir la paix, on est prêt à faire des, pas des compromis, pire, des compromissions qui vont avoir leur résultat dans le temps. Ah oui, ça ne viendra pas tout de suite, quoi qu'il en soit. Alors, nous apercevons rapidement, c'est que notre fameux garçon va recevoir son héritage tout de suite. Il va lui dire, bah, écoute, hein, laisse-moi un peu de temps, hein, je vais arranger un peu les choses, et puis voilà, tu auras ce que tu as demandé. Et ce garçon part avec dans la pensée immédiate, hein, l'assurance de ne pas avoir à manquer. Il se dit, moi, si j'ai ceci, si j'ai cela, et puis voilà, je ne vais pas finalement manquer, et donc ce partage est fait. Mais vous savez, les choses prématurées, les choses qui sont faites avant le temps, quand elles ne sont pas mûres, c'est une corde de survie illusoire. Parce qu'on pense qu'on va pouvoir se débrouiller. Si le papa a fait fortune, lui, il ne va pas faire fortune. Hein. Ça, je peux vous le dire. Lui, il a amassé, le père. Mais le fils va vider. Mais ce ne sera plus l'argent de son père, ce sera le sien. Et il va voir ce que ça signifie. La corde de survie illusoire, il se la met dans la tête. Et... c'est une corde qui est si peu garante d'aller loin et longtemps. C'est ça ce qui est important. Parce qu'il n'y a pas qu'un capital argent dans notre vie. Il y a celui de la connaissance, il y a celui de la prudence, il y a celui de toutes sortes de maturité, de toutes sortes de choses. Mais on s'aperçoit que si ça va dans le bon sens, si c'est véritablement eh bien, là, un acquis moral, d'accord. Mais si c'est le contraire, comme dans le cas qui nous intéresse, eh bien, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Les nuages noirs commencent à s'amonceler, même s'ils sont très, très pâles encore. Hein. Oui, ils sont très loin encore. Mais ça va venir. Et quelquefois, ça vient beaucoup plus vite de ce que l'on pense. Et c'est une sorte de possession d'avoir pour espérer être heureux. Si j'ai ceci, si j'ai cela, eh, pas de problème. Voilà, je vais être heureux. Je vais pouvoir être libre, je sors de mes prisons, je suis un personnage, une personne indépendante. Je vais pouvoir changer de vie. La vie, hein, ça ne se change pas. Hein. La vie, c'est autre chose. La vie, d'abord, elle ne nous appartient pas. Et ça, il faut bien le... mais vous en êtes tout à fait conscient. Et puis, il va partir avec cette pensée profonde d'essayer une existence libre et indépendante. Alors, c'est vrai que la succession de ces mots que nous avons lus, partir, ah ouais. Partir, changer d'air, voir le monde autrement. Ah oui, parce que le monde a de multiples visages. On ne vit pas en Europe comme on peut vivre en Asie, en Amérique, etc. etc. Et ça, c'est vrai que ça peut être enrichissant. Mais attention, ce que nous en faisons. et puis surtout faire sa vie. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Alors c'est bien sûr le langage d'un jeune homme, d'un adolescent qui commence, mais qui a encore tellement de chemin à faire. Hein. Voir d'autres horizons, l'aventure, on l'a dit tout à l'heure. Et puis surtout, comme il le fait, hein, donne-moi la part de bien qui me revient, c'est fermer la porte derrière. Mais qu'une porte fermée, quand elle est fermée, quelquefois on oublie la clé et on ne sait pas ce qu'on en a fait. Et comment faire ? Sans prévention, sans réflexion, qu'on aura peut-être à un moment ou un autre besoin, finalement, de revenir, parce que ça devient urgent. Si vous ne savez plus quelle porte, et si vous n'avez pas la clé de la porte, vous pouvez très longtemps taper à la porte. Frapper à la porte pour qu'on vous ouvre. Parce que d'une manière très, très carrée, il nous est dit dans le texte, il ramasse à tout. Pas un centime n'est resté. Ah oui. Et ouvrir une autre porte, dans un pays éloigné, c'est les termes, hein, un pays mystérieux, un pays inconnu, qui est, au départ, prometteur de bonheur, et que l'on a tant convoité, que l'on a tant rêvé. Notre société, notre jeunesse, peut-être certains nombreux d'adultes immatures, qui se disent et qui pensent comme ce garçon. J'ai voulu faire le détail un petit peu, mais pour montrer que nos anciens avaient certainement beaucoup de défauts. Mais, comme on dit, ils avaient du nez. Hein. Oui, parce que les temps n'étaient pas les mêmes que les nôtres, et puis il faut dire que la vie était gagnée avec peine et beaucoup de souffrance. Et oui, elle est parce que, aujourd'hui, moi je me le dis, hein, je me dis, mais si mon père... Hein, mes grands-pères, voyez ce que nous avons et vivez ce que nous vivons. Ils diraient, mais c'est pas possible, ils sont tombés sur la tête. Certains, ça leur déplairait pas, peut-être. Hein. Mais quelle évolution! Mais quelle évolution dans deux sens, hein, en bien et en mal. Ça marche ensemble, hein, en parallèle. Alors, je vais aller un peu plus loin maintenant. On s'imprègne de ce départ, hein. Et on se dit, qu'est-ce qui va arriver ? Ben, il va arriver ce qui a été semé, l'ivraie ou le bon grain. Il y a deux façons de vivre. Une curiosité saine et positive, c'est certainement la bonne raison, c'est quelque chose qui est raisonné, c'est quelque chose qui est bon. Ou son contraire, comme le texte nous le dit, ce que j'appellerais la dissipation, dans la débauche. Alors lui, il y est allé. Hein. Il devait rêver de ses petites soirées nocturnes, de ses copains qui se feraient à l'occasion, et puis de certains lieux où il s'est dit, « Bah oui, moi, la maison de mon père, elle est peut-être luxueuse, mais il n'y a pas l'ambiance de ce que j'ai entendu dire. Là, dans tel coin, telle ville, tel quartier, etc. etc. » Et c'est là où nous voyons les vrais mobiles. Pensons que peut-être, j'ouvre déjà cette parenthèse, pensons que les gens qui se convertissent à Jésus-Christ viennent de l'extérieur, comme beaucoup d'entre nous, comme ça a été mon cas. Alors on avait déjà bourlingué. Hein. Mais pensons à l'enfant de chrétien qui naît déjà dans une église, qui a reçu à travers, le club des enfants, à travers un enseignement biblique, à travers toutes sortes de choses. Alors après, ça dépend de la nature du climat familial. Hein, s'il est libéral ou s'il est légaliste. Bon, ben je passe là-dessus, très vite. Alors, les vrais mobiles, ils vont se révéler à un moment donné. Il y en a qui vont prendre un des chemins que nous avons finalement décrit, puis peut-être l'autre, il prendra un autre chemin. Et nous voyons que il y a des situations où, sans Dieu, sans foi, ni loi, oubliant ou oublieux d'un passé insouciant. On ne s'est peut-être pas posé la question, innocent on pourrait dire, fasciné à un moment donné, parce que ça se réveille souvent dans les fréquentations, fasciné par l'appel de la nouveauté en terre étrangère, pourquoi pas. Parce que c'est ce qui écrit. Où tout danger et expérience peut devenir une surprise. Parce que quand on est sorti un peu de nos habitudes, de nos traditions, de notre éducation, etc., etc., la terre étrangère, est, c'est vrai, c'est quelque chose. Hein. Premièrement, on ne parle pas la même langue, il faut l'apprendre, plus ou moins. Et nous nous apercevons que c'est plein d'expériences qui nous réservent des surprises. La folie des passions est synonyme de descente toujours facile. Eh oui. On regarde dans l'histoire de la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans toutes sortes de choses où il y a des efforts pour atteindre, il y a des côtes, des pentes et des côtes. C'est pour ça qu'on a appelé certains chrétiens des pentecôtistes. Les pentes et les côtes, voilà, exactement. Alors, dans les descentes, ça passe tout seul. On a des amis qui font du vélo ici. Oui, des champions, hein, presque champions de France. Hein. Et qui, quelque part... Hein, ça fait du bien quand vous avez monté pendant des kilomètres et que d'un seul coup, vous arrivez de l'autre côté. Voilà. Oh, c'est facile, on se repose. Petite sieste sur la selle du vélo et puis on laisse courir. Oui. Enfin bon, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais c'est ça, hein, finalement. La folie de la passion est synonyme de descente toujours facile. Puis il y a quelquefois des imprévus. Ça, c'est forcé. Hein. Il y a quelquefois des vents contraires. Et où les sources et ressources tarissent si vite. Ainsi, le désert arrive. Pour ce garçon, le désert n'est pas loin. Il s'est trompé de direction. Hein. Ce n'était pas vers, les bordures enchantées, finalement, du pays où il était, mais c'était plutôt vers le désert. L'isolement, le texte nous le dit, où la maison des jours heureux est déjà si loin, et à un moment très défavorable, quand la famine nous surprend. Famine nutritionnelle, famine pour le corps, famine morale, famine psychologique. Et peut-être, s'il y a eu véritablement une touche d'évangile à un moment ou à un autre, d'une connaissance de Dieu et de Jésus, ça peut être spirituel. Ou là, quelque part, on va se retrouver complètement et totalement démuni. Et à ce moment-là, le besoin devient tourment, il devient angoisse, au point où la nécessité vitale oblige à faire ce qu'il n'aurait jamais fait avant, à se livrer, à se vendre pour une misérable nourriture, une sorte de travaux forcés et conditions humiliantes pour un juif. Suprême humiliation, garder des cochons. Excusez-moi, le nom est choquant. Il est dit pour sot, mais ça revient au même. Pour un juif, imaginez-vous ce que ça peut être. Eh oui, il redescend, mais les mots sont choisis par Jésus dans sa parabole pour bien montrer ce qu'il en est. Hein. Et il va devoir, à un moment donné, il est tellement torturé dans son estomac parce qu'il a faim, d'aller le manger dans leur auge aux cochons. Parce que personne ne lui donne de la nourriture. C'est un étranger, c'est quelqu'un qui est de passage. Bon, il a bien fait la fête au milieu de nous, on s'est bien amusé avec lui, mais maintenant on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Et nous voyons qu'il va aller de fond en fond. Au fond de l'auge, au fond de sa condition, au fond de son humiliation. Et la dernière marche, figurez-vous, vers le puits de l'abject. Je parlais de juifs. Je parlais finalement de celui qui descend, qui descend et qui descend. Combien de fois dans nos églises nous avons vu des chrétiens descendre jusqu'à l'abjection. On s'est dit, mais on ne le reconnaît pas. Moi, j'ai connu des frères avec lesquels on était vraiment très liés. Et puis à un moment donné, il y a eu quelque chose. Aujourd'hui, on parlera d'alcool, on parlera de drogue, on parlera de toutes sortes là, d'aventures sensuelles, si l'on veut, et puis bien d'autres choses. L'argent et... Ah oui, c'est ça ce qui est terrible. Et c'est la descente vers le puits. Puis quand vous êtes dans le puits, vous êtes dans quelque chose d'étroit. Hein. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Parce qu'il n'y a qu'une sortie. Elle n'est pas en bas. Allez en haut, vous avez une lumière, et derrière cette lumière, il y a encore l'espérance. Oui, l'espérance. Un puits, c'est redoutable, hein, quelle que soit la profondeur. C'est là où on patauge et on n'a pas trop d'espace pour finalement eh bien, remonter. Pour ce garçon, c'est l'abandon sans secours. Et voilà pour l'histoire qui descend, avec ces mots qui résonnent encore pour nous aujourd'hui quand on les lit. Partir, quitter, prendre le grand large pour atteindre un hypothétique pays de rêve, de bonheur irréel ou supposé, parce que on a perdu tout, on a tout perdu, même sa dignité. Les parents sont loin, la famille est loin, les amis sont loin, et on n'a même plus d'argent, plus rien du tout. Tout a été dilapidé, tout a été dissipé. Alors notre ami, il est au tapis. Oui, oui. Ou il est peut-être sur le tapis. Non pas sur le tapis, mais peut-être au tapis, en dessous du tapis. C'est la descente. Mais maintenant, je voudrais aborder quelque chose sous l'image du... C'est une métaphore que je voudrais vous donner. Mais il y a aussi un exemple de belle remontée. Je vous ai dit le puits. La lumière, elle est là-haut. Comment l'atteindre? Ouais. Il la connaît, la lumière. Il sait ce qu'elle est au sortir du puits. Mais comment y retourner? C'est ça le problème. Donc une belle remontée pleine d'espoir. De passer d'un vécu heureux à un vécu malheureux et de retrouver l'espérance d'un nouveau vécu qui redonne le bonheur et qui redonne l'espoir. J'ai appelé ça, et vous allez comprendre pourquoi, j'ai appelé ça la rivière de la Renaissance. Rien à voir avec le XVIIe siècle, hein. Mais la rivière de la Renaissance. Et je prendrai l'exemple des saumons. Ah ouais? Ce sont des animaux, des poissons migrateurs, comme il y en a avec des plumes, pas des saumons, mais des oiseaux. Voilà, et puis il y a beaucoup de migrations sur la Terre, ça tourne continuellement. Et on pouvait s'imaginer, on dit qu'il y a beaucoup d'avions dans le ciel, mais il y a beaucoup aussi de croisements entre les continents, des poissons, des oiseaux, hein, toutes sortes de choses comme ça. Il me manque peut-être des idées, mais enfin. Et j'aimerais justement donner cette image du saumon migrateur. Eh, vous savez qu'il ne reste pas sur place, hein. Ça c'est certain. Alors les saumons de l'Atlantique Nord, les saumons du Pacifique, mais ils quittent leur maison de leur origine, et ils s'en vont, je ne sais pas, mais on se dit, mais pourquoi ils font toute cette... Eh oui, c'est ça, hein. Les saumons vont se perdre dans l'océan infini. C'est l'image de la vie, c'est l'image de la Terre, c'est l'image du monde. Et écoutez bien, ils reviennent toujours là où ils sont nés. Il y a plusieurs naissances, hein. Plusieurs formes de naissances. Là, c'est naturel. C'est leur instinct, c'est leur façon de faire. Alors, comment, posons-nous la question, mais comment font-ils pour retrouver le chemin du retour? Comment font-ils? Il y a comme une horloge à l'intérieur d'eux-mêmes, probablement. Et nous apercevons que le texte vient à notre aide, étant rentré en lui-même. Il faut à un moment donné qu'il y ait un déclic. Et là, ça fait partie des belles choses que nous voyons dans l'œuvre de Dieu. Ouais. Des enfants qui ont été élevés dans l'Évangile et qui, à un moment donné, ont fait la numba. Excusez-moi. Et qui ont fait toutes sortes de fanfaronnades et toutes sortes d'aventures. Et qui, à un moment donné, alors, ils rentrent eux-mêmes et ils disent « Je me lèverai ». Allez, t'es couché sous le tapis, maintenant lève-toi. T'es au fond du puits, maintenant, eh bien, tu vas maintenant te redresser et tu vas remonter vers la lumière. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il ne se trompe pas, parce qu'il sait maintenant, ce souvenir douloureux et affectueux, parce que peut-être que l'affection avait passé, hein, à un moment donné, mais là, maintenant, l'affection revient. Et je lui dirai, vous savez comment ça s'appelle, je lui dirai? c'est la prise de conscience de notre misère et c'est la repentance. Et ça, faut y passer d'une manière ou d'une autre. Et je vais vous dire la fin. Et traite-moi, j'accepte maintenant que tu me conditionnes, non plus comme ton fils, non plus comme ton fils, mais que tu me considères comme le dernier des derniers de tes esclaves, parce que le bonheur, même si je suis esclave, dans ta maison dans laquelle je reviens repentant, eh bien je serai encore l'homme le plus heureux. C'est l'histoire de certains d'entre nous. Hein. C'est l'histoire d'une manière ou d'une autre, formulée, vécue, expérimentée sous toutes ses formes depuis que le monde est monde, depuis que l'Évangile est annoncé. Traite-moi comme le dernier des derniers. Alors la comparaison, on peut la faire sous cette forme. Si on revient au saumon, ils sont nés dans une écloserie et l'alevin saumon se dirige, il cherche le canal, qui mène au ruisseau. Le ruisseau qui s'écoule vers la rivière. La rivière qui s'écoule vers le fleuve et le fleuve vers l'océan. Saumon, également anguilles, qui vont dans la mer des Sargasses, là, dans l'arc antillais. Et puis c'est que ça, hein, pour les poissons d'une manière ou d'une autre. Les baleines, il y avait un beau reportage dernièrement sur les baleines qui quittent le pôle sud et qui vont faire leurs petits autour de l'île de la Réunion, enfin les îles là-bas, hein. Voilà. Et ils font des milliers de kilomètres. Eh oui, ils viennent, ils reviennent. C'est un mouvement perpétuel. Poussé par son instinct, qui est un instinct, je voudrais le dire, migrateur, ils ont un GPS, avant que nous on invente le nôtre, vous vous rendez compte? Ils retournent vers le lieu de leur enfance. Les saumons localisent dans l'espace l'endroit précis de leur origine quand ils sont là sur les côtes du Canada. Ils sont partis peut-être dans la région là du Mont Gerbier de Jonc, au nord, enfin à la source de la Loire ou n'importe quelle autre rivière, la Garonne ou si vous voulez. Eh bien, nous voyons que ils savent où ils vont. Ils ne se trompent pas. Regardez les hirondelles. Elles partent d'Afrique à un moment donné. Et elles reviennent dans la ferme où elles sont nées, elles ont fait leur lit. Donc, le saumon revient à la maison, au prix, et là je tiens à le dire parce que ça a été la souffrance, certainement pendant des jours, des nuits, tout ça, de ce fils prodigue. La maison du retour au prix de volonté et au prix d'efforts, comme cela nous est dit et que je voudrais relire, parce que c'est intéressant de relire cette chose. Étant rentré dans lui-même, il dit : combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, c'est ce que j'ai dit, et je lui dirai : mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Eh oui, il est prêt à accepter. Et c'est ce que j'ai commenté il y a un instant. Mais au prix de volonté. Je veux remonter la pente. Je veux crier à Dieu. Je veux lui demander pardon. Je veux véritablement que ma vie change. Je me suis mis moi-même dans le pétrin. Mais Seigneur, je ne peux pas m'en tirer. C'est toi et je crie à toi. C'est vrai pour tous les hommes, fils prodigue ou celui qui, comme moi par exemple, où je suis venu du monde. Je ne connaissais rien. Hein. Toute la distance océanique à traverser. Les rapides à remonter. Vous avez vu les saumons ? Ils montent, et puis à un moment donné, ils retombent. Et ils ne vont pas céder, ils vont continuer, même s'ils n'ont plus un ventre intact, parce qu'ils sont déchirés par le rocher. Alors, ils vont lutter. Ils vont passer des cascades. Il va y avoir des prédateurs sur leur route. C'est ça, la remontée. Elle est difficile. Vaut mieux pas connaître ça. Mais c'est certain, c'est ce qu'ils connaissent. Et là, il y a quelque chose. Quand on parlait de remontée providentielle et avec la grâce de Dieu, écoutez, l'accueil providentiel qu'il aurait réservé à cette maison dont il avait perdu de vue. Il sait toujours où aller, hein, mais il avait perdu de vue. Écoutez bien. Il est dit ceci. Il se leva, alla vers son père. C'est pas de le dire, mais c'est de le faire. Mes frères et sœurs qui avaient du mal à remonter la pente, vous qui êtes tombés peut-être dans toutes sortes d'addictions, toutes sortes de choses, et vous sentez bien que vous êtes en train de couler au fond du puits. Mais le Seigneur est là pour vous relever. Il n'est pas là pour vous juger. Il n'est pas là pour vous condamner. Oui, vous avez voulu choisir. Eh bien, vous avez choisi. Maintenant, si vous criez à lui, il va vous remonter. Il ne va pas vous laisser tout seul, parce qu'il est notre Père qui est aux cieux, et vous êtes son fils et sa fille. Il ne va pas vous laisser tomber. Il y en a qui vont revenir assez vite. Mais il y en a qui vont revenir tardivement. Il y en a qui vont revenir à la 11e heure avant de fermer les yeux pour toujours. L'œuvre de Dieu est là. C'est plus votre œuvre. T'as voulu goûter? T'as voulu faire? Je t'avais pourtant dit que je connaissais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur, t'en as pas voulu. Je t'avais donné un appel pour me servir. Et cet appel, tu l'as piétiné. Tu as perdu ta vocation, mais tu n'as pas perdu ton salut. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, pour certains. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. C'est-à-dire que le père, il attendait. Hein. Tous les jours, toutes les heures, tous les moments, il se disait, tiens, je regarde par la fenêtre, est-ce que c'est lui? Il voyait les silhouettes, il dit, non, c'est pas lui. Il a attendu, il a attendu, il a attendu, jusqu'au jour. Il a vu son fils, qui revenait de très loin, qui s'était meurtri, qui s'était défiguré même, parce que j'ai vu des gens, et j'en connais encore aujourd'hui, des frères qui ont eu des positions, et des positions respectables, pas forcément l'estrade, hein, pas forcément le ministère, mais aujourd'hui ils sont défigurés, leur vie a été marquée par l'alcool, a été marquée par là, toutes sortes de choses. Ils étaient beaux, ils sont devenus laids. Mais quand ils se convertissent, ils redeviennent beaux. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. C'est le père qui revient vers lui. Et il court à ce moment-là, le père, et il embrasse son fils. Qu'est-ce qu'il différence il y a entre des injures, un coup de poing, et véritablement une embrassade pleine d'amour et d'accueil? On le fait tous, hein, ça. Cette comparaison. Le fils lui dit, mon père, alors c'est ça, hein, c'est pas de le dire, mais de le faire. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, à ses serviteurs, apportez vite la belle robe, la plus belle robe, pas n'importe quoi, revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, signe de l'alliance. Parce que c'est ça, hein, le signe. Hein. Des souliers aux pieds pour qu'ils marchent dans la bonne direction maintenant. Et les souliers que nous avons, c'est la parole de Dieu qui va nous faire marcher dans la bonne direction. On était parti en pantoufles ou en espadrilles. On s'est aperçu que ça fait du mal, hein, avec ce genre de chaussures, parce que ce n'est pas des chaussures de marche. On a mis des beaux souliers vernis pour faire bien devant les autres. C'est du m'as-tu vu, on sait ce qu'il a, là où il l'a amené, et nous voyons que Dieu va lui donner des souliers, mais solides, hein, bien. Parole de Dieu, on revient à la parole de Dieu. Amenez le veau gras, il attendait depuis longtemps, ça a été son sursis au veau gras, le temps qu'il engraisse, naturellement. Et il est dit, tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous, car voici le fils, mon fils, que voici était mort et qu'il est revenu à la ville, était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Quel bonheur! Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 dans le ciel qui restent dans leur état. Ah, mes amis, ça c'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire de nos églises. Nous, on n'a jamais travaillé pour la conquête de remplir une église avec une appellation. Non, on travaille pour Jésus-Christ et non pas pour le centre évangélique. Ça fait 40 et quelques années que je suis dans ce mouvement. Bon, mais ce n'est pas une chapelle que je prêche, c'est Jésus-Christ. Et la parole que je donne, je veux que ce soit pas la parole d'Alain, mais la parole que nous inspire l'Écriture pour des hommes et des femmes qui sont des fils prodigues, quel que soit leur âge. Alors, nous voyons que pour les saumons, nous voyons que pour le fils prodigue, emporté au gré des courants tumultués, la remontée est difficile, elle est périlleuse, elle est dangereuse. Et c'est une lutte, finalement, eh bien, à mort. Mais il y a quelque chose, c'est qu'il y a une renaissance et une vie nouvelle, et revivre des nouveaux départs. Alors je voudrais vous donner un petit peu la livrée, ou tout simplement, eh bien, la condition de celui qui revient. J'ai quatre qualités à vous citer d'un chrétien, comme un saumon, comme un poisson et bien d'autres poissons. Quatre qualités. Chez moi, j'ai un aquarium. Depuis toujours. Voilà, je leur donne à boire de temps en temps parce qu'ils ont soif. Hein. Mais toujours est-il que j'ai observé quelque chose, et j'en ai fait la réflexion à Myriam, j'ai observé que les poissons, jour et nuit, ont toujours les yeux ouverts. Ah, j'ai jamais vu un poisson sur le côté avec les yeux fermés. Hein. Ou alors il est en très mauvaise position. Oui, les yeux ouverts, c'est quoi? Un chrétien doit avoir cette qualité. Et c'est l'image de la perspicacité et du discernement, les yeux ouverts. Eh oui, nous avons besoin d'avoir en permanence les yeux ouverts sur notre condition, sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est le monde, c'est des réalités, naturellement, tout cela. Le deuxième principe, deuxième qualité, c'est qu'un poisson, très souvent, à moins que ce soit des spécimens particuliers, hein, mais peu importe, un poisson est étincelant. Bah, je parlerai simplement des ablettes ou des gardons et tout ça de notre région. Hein. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans les mers australes, naturellement. Donc il est brillant et il doit être un témoin de lumière. Pas le contraire. La troisième qualité, un poisson vit dans l'eau. Essayez de le mettre là dans un endroit bien sec, vous allez voir, il ne va pas certainement... parce que son élément vital, eh bien, c'est l'eau. Et s'il s'en extrait, eh bien, il va mourir. C'est son habitat. Et nous pensons que ce n'est pas tant l'Église en mur et en pierre et tout ce que vous voulez, c'est la communion fraternelle. Ouais. C'est ce que nous sommes en Église. Alors, on l'appelle l'Église, mais c'est véritablement le noyau qui nous rassemble autour de Jésus-Christ pour adorer, pour prier Jésus-Christ, et qui fait que Jésus-Christ est notre vie, naturellement. Ça, c'est notre eau. J'allais dire notre eau de vie à consommer avec modération. Vous l'avez compris. Et puis le quatrième point, c'est tout simplement un poisson. C'est un être grégaire. C'est-à-dire, comme ça correspond un petit peu au troisième point, il ne s'isole jamais de ses congénères. J'ai observé en regardant l'aquarium... Je ne le fais plus maintenant, je mets la même espèce parce qu'autrement c'est la guerre totale. Hein. Quand il y a plusieurs espèces, il y a des poissons de fond, il y a des poissons du milieu, il y a des poissons de surface. Ouais. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils se rassemblent tous ensemble. Ouais. Tous en fonction des différentes strates, on peut dire, hein, différents niveaux. Et je crois que c'est un animal grégaire et nous sommes à nous rassembler les uns avec les autres parce que c'est là où Dieu va envoyer sa bénédiction. L'isolement, c'est pas bon. On l'a vu avec notre garçon, là. Ça, c'est sûr. Alors, nouveau départ. Et je vais finir. Parce que c'est important pour vous qui êtes parents et qui pleurez sur des enfants qui ont quitté l'Église. Mais c'est pas de quitter l'Église. Le plus grave, c'est de quitter Jésus. Eh oui. Et c'est pour ça qu'on en a fait toute une maladie. C'est pour ça que quelquefois vous êtes rendus malades, vous, parents, pendant des années, que vous avez prié, que le Seigneur n'a jamais rien entendu d'autre que des répétitions de vos prières. Le Seigneur nous demande de prier avec foi. Mais ce n'est pas la peine d'y revenir 4 fois par jour. Ou alors vous prenez Dieu pour un sourd. Ne multipliez pas de vaines paroles que comme certains qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. L'exaucement ne viendra pas comme ça. Ce n'est pas de cette manière. C'est un autre positionnement. Et moi, je dis que l'enfant de Dieu égaré, alors disons le mot, rétrograde, parce qu'il a peut-être fait confession de baptême, etc., etc., eh bien, doit retrouver le chemin de la vie, et on reprend les mots qui sont dans notre texte, certes, partir, il est parti, et de revenir là où il a hérité la vie, il a hérité de la vie, une promesse d'en haut, c'est un retour à ses racines naturelles et spirituelles auprès de sa vraie famille. Vous savez, si le Seigneur vous a donné de naître dans une famille chrétienne, eh bien bénissez le Seigneur. S'il vous a retiré peut-être d'une famille extérieure, ne méprisez pas les parents qui vous ont élevé. Ah, mes parents, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, et puis c'est tout. Mais vous, vous êtes devenu chrétien. Vous avez fait votre choix. Et vous êtes rentré dans une autre famille. Moi, c'était un bonheur. J'avais 20 ans à l'époque, même pas 19 ans, quand j'ai découvert une famille où là, on priait avant de se mettre à table. Ça, c'était quelque chose. C'était chez mes amis hollandais. Ah ouais, c'était formidable. Et j'ai dit, moi, je veux véritablement, quand je serai marié, j'ai réussi à me marier quand même. Eh bien, on a eu une vie sensationnelle et formidable, et ce qui remplissait finalement le grand vide que j'avais auparavant, même si j'étais un croyant religieux. Mais il manquait quelque chose. Et de marcher ensemble, dans les choix que nous pouvons faire d'un compagnon ou d'une compagne, enfin d'un époux ou d'une épouse, eh bien, demandons au Seigneur de choisir et il ne va pas se tromper. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, parce que il faut attendre, il y a toutes sortes de choses. Mais bon, le Seigneur bénit. Le Seigneur sait faire ce qu'il faut pour nous. Alors, je m'adresse aux parents pour terminer. Vous qui êtes parents et qui pleurez. Arrêtez de pleurer. Ouais, arrêtez de pleurer. Vous leur avez donné la vie naturelle, vous leur avez donné une éducation, l'école, la scolarité, un métier, etc., etc. Vous avez rempli votre part. Vous les avez enseignés dans l'Évangile. Et vous leur avez laissé une marque indélébile. Enseigne l'enfant quand il est enfant, quand il est petit, et il ne s'en détournera jamais. Alors maintenant, vous allez peut-être voir des choses qui vont vous décontenancer. Parce que de dire, mais ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et si nous sommes arrivés à un certain âge et que 50 ans après, votre fils et votre fille, eh bien, n'est pas toujours encore à Jésus-Christ, moi, je vous dirai une chose. Continuez à prier et abandonnez ce fardeau entre les mains du Seigneur. Abandonnez-le avant même. Parce que c'est l'affaire de Dieu. C'est plus votre affaire, c'est l'affaire de votre fils ou de votre fille, quel que soit son âge. Mais c'est l'affaire de Dieu qui sait comment procéder. Alors, sachez attendre, mes frères et sœurs. Moi, je vous encourage. Continuez à aimer celui qui est égaré ou qui s'est égaré tel qu'il est et non pas pour ce qu'il est devenu. Oubliez ce qu'il est devenu. À un moment donné, il va reprendre une vie tout à fait nouvelle. Mais ça, c'est un principe. Et continuez à le remettre devant le trône de la grâce pour son retour. Et c'est Dieu qui va le faire. La conclusion. Et la conclusion va nous amener dans notre situation d'aujourd'hui par rapport au monde dans lequel nous vivons et les tragédies que nous vivons aujourd'hui. La conclusion, c'est le fils qui revient à la maison où il est attendu depuis longtemps. Dieu attend le fils et la fille prodigue, quel que soit son âge, pour fêter la vie, le retour à la vie auprès de son Père céleste. Je donne cette note supplémentaire qui m'est venue cette nuit. Israël. Israël, le fils qui revient à la maison du Père. On connaît l'histoire de l'Ancien Testament. On connaît l'appel de Dieu, l'élection de Dieu. On connaît ce qu'a été Israël face à son Dieu, son Père, indocile, désobéissant et tout ce que vous voudrez, idolâtre. D'accord? Dieu a dit, moi je fais un autre plan. Israël revient à moi. Les prophètes de l'Ancien Testament ne cessaient de dire à Israël, revenez vers votre Dieu. Il va vous donner sa bénédiction si vous revenez. Et pourtant, on s'est aperçu que ce n'est pas ça. Pendant tout l'Israël, l'ancien Israël, pendant des siècles et des siècles, on aurait pensé, comme dans la parabole des vignerons de Jésus qui tue le fils, qu'avec l'Évangile, Israël se serait tourné, finalement, eh bien, vers Jésus, le Messie, parce que c'était leur Messie. Il aurait été destiné pour les amener dans la réalisation pleine et entière, finalement, de la bénédiction de Dieu. Alors, ils se sont enfermés dans un légalisme terrible. Nation parmi les nations, cruelle et tout ce que vous voulez, l'Ancien Testament. Quand on lit dans l'Ancien Testament, ça nous donne une petite idée de ce que c'est encore aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, hein, d'une manière ou d'une autre, sans distinction, parce que ce sont tous des deux côtés des hommes. Et puis, une chose qui est certaine, c'est que on se rapproche de quelque chose, mes frères et sœurs. Je ne vais pas vous dire quand, je ne vais pas vous dire comment, parce que les choses sont quand même assez voilées. Le voile de Moïse qui tombe sur son visage a été levé à travers l'arrivée du Messie qui meurt pour le monde entier, pas seulement pour les Juifs, hein, il y a 2000 ans. Mais je pense que Israël, le fils terrible, comme nous l'avons lu, eh bien là, le fils prodige, va, à un moment ou un autre, se convertir à Dieu par Jésus-Christ. Vous y croyez à ça? Tout le livre de l'Apocalypse, je pourrais recommencer pendant 2 heures, parce que vous savez qu'on a fait toute étude, il y a 10 années, du livre de l'Apocalypse. Hein. On a passé du temps, hein, 2 ans. Mais tout est dans les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, et puis tous les petits prophètes qui se terminent voilà, dans la fin du Nouveau Testament. Jésus nous parle qu'il est le fils prodigue, mais pas pour ses péchés, pour les nôtres. C'est ça la grande différence. Hein. Et nous voyons que c'est Israël qui va véritablement endosser le nom de fils prodigue qui revient vers son père, à cause de Jésus, tout simplement. Et j'aimerais terminer par 3 prophéties. Ça peut nous aider peut-être à écouter que Dieu exauce les prières et il attend le fils prodigue qui est tout simplement Israël. Dans Zacharie, écoutez, c'est des paroles extraordinaires. Moi, j'aime bien ces paroles. Et quand j'ai la possibilité peut-être de prêcher de temps en temps, enfin, peu importe, mais de me servir de ça comme un thème pour la conversion d'Israël. Dieu dit, « Alors je répondrai sur la nation de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Quand même les Juifs, hein ? Pas les païens, là. Hein « Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, unique fils de Dieu. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et en ce jour, le deuil sera grand à Jérusalem. Seigneur, après toutes ces persécutions, après ces génocides, après tout ce qu'ils ont vécu, on pleurera à Jérusalem. Et aujourd'hui, on pleure à Jérusalem. Et on pleure ailleurs. Parce que il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il faut faire la différence entre des bandits, des tyrans, des terroristes, des incendiaires, des coupeurs de tête, et puis le peuple qui en est la victime. Et les peuples qui en sont la victime. Qui n'ont aucun consentement avec le sang qui coule. Le livre d'Osée, ça va? Je peux encore finir là? Ben, vous ne me répondez pas, vous avez le droit, je continue. Ou alors je vous intimide, peut-être. Non, je ne vous intimide pas, pas possible. Dans Osée, chapitre 3, alors que je retrouve. Voilà, Osée, chapitre 3, et au verset 3 et 5. Hein, 3 et 5. Il est dit ceci. Après cela, partie de l'histoire. Les enfants d'Israël reviendront. Ils reviendront. Le fils prodigue est revenu. Ils reviendront. Ils chercheront l'Éternel. Ils auront besoin de leur Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu est Dieu seulement. Dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu est le Père. Ça commence comme ça. Et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. On est en 2023. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en 2050, avant ou après. Mais ils reviendront. Et les choses sont en préparation. Ce qui arrive est dans la main souveraine de Dieu. Ce n'est pas un accident. Puis je finis. Quand il est question, finalement, eh bien, d'un voile qui va tomber sur les yeux d'Israël, incrédule aujourd'hui, une nation, je dirais laïque, hein, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, même s'il y a une part de religion très importante, hein, et ce n'est pas les juifs orthodoxes qui sont les plus tendres. Hein, parce que quand on parle des terroristes de l'autre côté, ils ont les leurs. Hein, moi, pour ceux qui ont été à Jérusalem, on était se promener à Messach-et-Harim, dans la banlieue ouest de Jérusalem, et je peux vous dire qu'on n'emmenait pas l'argent. Parce que si on a vu ce qu'on a vu, on se dit, mais ils sont comme les autres, hein. Terrible, hein. Ils ne font pas de cadeaux. Hein. Alors on est sorti vite fait. On a eu peur. Ouais. Parce qu'on se dit, bah, si c'est ça, c'était les pharisiens du temps de Jésus. Hein. C'était assez troublant. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, il nous est donné au verset 14, il nous est dit, en parlant des Juifs, « Mais ils sont devenus durs d'entendement. » Ça fait 2000 ans que l'Évangile est prêché, que leur Messie leur est proposé. Ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est Jésus-Christ qui convertit. C'est pas Moïse. C'est pas les lois d'Israël. Les lois, c'est fini. Les lois de Moïse, c'est terminé, c'est fini. Et ils en sont encore là. Et depuis 2000 ans, eh bien, quelque part, ils ont bouché leurs oreilles et leurs yeux pour ne pas entendre la parole du Fils, qui est Jésus. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, pas seulement sur leurs yeux. Ils ne comprennent pas. Jusqu'à tuer leur Messie, il y a 2000 ans. Hein. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Christ, le voile est ôté. Parce que c'est une question non pas morale, c'est pas une question intellectuelle ou c'est pas une question cérébrale, parce que, écoutez bien, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Fils prodigue, il voulait la liberté, mais ce n'était pas la bonne. Pour nous, lorsque nous avons l'illusion, même dans nos églises, que nous cherchons la liberté, l'affranchissement et tout ça, eh bien, ce n'est pas forcément la bonne. La seule liberté qui vaille, c'est d'être la convertie à Jésus-Christ et être rempli de son Esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et priez pour Israël. Priez pour les otages palestiniens. Pour les otages israéliens. Parce que nous sommes dans un monde qui est en train de véritablement éclater comme un volcan à travers la prééminence du mal sur le bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui parle aux hommes. Alors c'est vrai que tout ça est délayé sur des années, sur des décennies, sur des siècles. Mais nous voyons et nous croyons, en effet, Père éternel, que toi tu prends ton temps pour attirer à toi des hommes, pour les amener à Jésus-Christ, pour convertir leur cœur, pour enlever le voile. Eh bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour, en effet, l'enfant terrible de la Bible, c'est-à-dire Israël. Mais c'est vrai aussi pour nous, au milieu de nous, nous avons des enfants terribles aussi. Nous avons des fils prodigues. Nous avons de ceux qui viennent, qui se convertissent, qui découvrent Jésus et qui partent tout à nouveau. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, visite-les, bénis-les et donne-leur véritablement d'avoir un amour ardent pour Jésus. Ouais, Seigneur, pour ta parole, pour la vie, pour la vérité, pour la lumière et la liberté. Merci, mon Dieu. Amen.